C'est maintenant et c'est pour vous sur Radio Nîmes 92.2.
Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, nous allons assister en direct à la chute du Shah d'Iran. Une révolution colorée, comme l'Occident les affectionne, vécue depuis l'escalier de la vérité. Depuis 1964, l'ayatollah Khomeini est réfugié à Najaf, en Irak, d'où il tient des prêches incendiaires contre le Shah et son régime, et ce à tel point qu'en 1978, Saddam Hussein, dans le cadre des rapprochements Irak-Iran, expulse le religieux. La France va se positionner pour l'accueillir. Pour quelle raison ? Faire pression sur le Shah ? Jouer sur les deux tableaux en préparant l'avenir ? Tandis que Giscard est en voyage au Brésil, le vieillard de 77 ans arrive à Orly le 6 octobre 1978 avec un simple visa touristique. Il y est accueilli par des opposants iraniens au Shah et par des fonctionnaires français et va s'installer à Naufle-le-Château dans une petite villa mise à sa disposition par le docteur Ebrahim Yazdi. Le 5, 6 et 7 janvier 1979 se tient une réunion à la Guadeloupe entre Jimmy Carter, Helmut Schmidt, Valéry Giscard d'Estaing et James Callaghan. Depuis septembre 1978, la situation en Iran est hors de contrôle. Des dizaines de milliers de manifestants sont dans les rues réclamant le départ du Shah. Les heurts avec la police sont quotidiens et l'ambassadeur de France à Téhéran déclare que l'empereur ne parvient plus à se faire obéir même de ses jardiniers. Fin décembre, Giscard envoie Poniatowski se rendre compte sur place et ce dernier revient en lâchant « c'est foutu ». Carter et ses conseillers ont déjà choisi leur candidat au remplacement, ce fameux Khomeini. Plutôt l'islam qu'un régime pro-soviétique qui offrirait à Moscou l'accès à la mer et au pétrole. De plus, un régime islamique aurait l'avantage de se propager au sein des républiques soviétiques et de faire imploser le fameux empire du mal. Depuis que le guide religieux est arrivé en France, les médias et les intellectuels se succèdent pour lui servir la soupe à raison de 130 interviews en 112 jours de présence. Hormis quelques gaullistes et quelques communistes, c'est une communion des Sartre, Beauvoir, Garaudy, Foucault ainsi que des socialistes avec le réfugié de Naufle-le-Château, le vieux sage barbu, assis sous son pommier. Foucault parle de l'ayatollah comme d'un saint homme. Le docteur Yazidi, pharmacien, maître en philosophie et docteur en biochimie, assiste Khomeini, le conseil et lui sert de porte-parole. Yazidi est un opposant au Shah de longue date, il fera partie ensuite du gouvernement iranien. La villa se transforme en lieu de pèlerinage et la France, totalement dépassée par le phénomène, a beau infiltrer des agents de la DST pour suivre de près ce qu'elle a contribué à initier, elle ne peut empêcher l'enregistrement de cassettes de propagande religieuse et leur envoi clandestin en Iran où elles vont galvaniser les foules. Lors des interviews, Khomeini promet un Iran libre et juste, sans se perdre dans des détails sur sa révolution théocratique. L'URSS est aux aguets, intéressée par la chute du Shah. Ce dernier se sent trahi par ses amis français et des manifestations hostiles à la France se déclenchent à Téhéran. La France expédie des émissaires pour rassurer le Shah, ce qui est un chef-d'œuvre de duplicité pour préserver l'avenir. Le 7 janvier 1979, le général américain Robert Weiser est envoyé à Téhéran. Les États-Unis soutiennent la décision du Shah de basculer sur un régime civil avec un nouveau premier ministre, Chapour Bakhtiar. Weiser a mission de transmettre le soutien des Américains à la solution Bakhtiar et demande à l'armée iranienne d'appuyer cette option, mais rien n'est écrit. Les généraux du Shah sont sans illusion sur leur sort si la révolution triomphe et l'option du coup d'État leur semble la solution. Le conseiller Brzezinski est du même avis, mais Carter se montre réticent. L'ayatollah Khomeini, de son exil, écrivait aux présidents américains pour les amadouer et préparer l'avenir. L'opération de séduction du religieux auprès de Kennedy, assassiné prématurément, avait été un coup pour rien. Il tente désormais sa chance avec Carter en janvier 1979. Et bingo, Carter conseille au Shah de quitter rapidement le pouvoir. Des pourparlers secrets ont lieu, Carter paraphant des engagements à ne pas contrarier le renversement du régime du Shah et Khomeini assurant que les Américains seraient des amis du futur pouvoir, que leurs soldats seraient les bienvenus en Iran et que le pétrole serait vendu à tous, sauf à Israël et à l'Afrique du Sud. Khomeini demanda à Carter de faciliter la transition en l'aidant à surmonter l'hostilité de l'armée encore fidèle au Shah, ce que fit le président américain. Le 13 janvier 1979, le commandant de la force aérienne impériale, Hussein Rabi, annonce à Weiser que les chefs de l'armée, de la marine et de la gendarmerie sont prêts pour passer à l'action. Les Américains veulent jouer la carte de la transition en douceur et d'une entente avec les religieux. Ces divergences d'analyse vont entraîner le 10 février des affrontements entre la garde impériale et les cadets de l'armée de l'air. Les révolutionnaires, toutes tendances confondues, vont alors s'emparer des bâtiments publics ministériels, si bien que l'armée va alors proclamer sa neutralité, permettant le rapatriement de Roménie, et dès le mois d'avril, Bakhtiar est contraint à son tour à l'exil. Il n'y aura pas de régime laïque fantasmé par les Occidentaux, les religions ont pris les rênes, et au passage, Rabi et les autres généraux ont été pris, torturés et exécutés.
On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes.
Janvier 1979, le Shah quitte l'Iran, officiellement pour soigner son cancer. Le 1er février 1979, la France affrète un Boeing 747 et le met à disposition de Roménie pour son retour en Iran. En reconnaissance, Téhéran aura sa rue Naufle le château, la villa qui abrita le religieux sera un jour détruite et un monde de chaos émerge. Si Carter et Giscard furent à la manœuvre, ils ne furent pas les seuls. Le parti communiste iranien Tudé va participer à l'avènement des islamistes, car si certains membres éminents dénoncent l'obscurantisme et préféreraient jouer la carte des progressistes laïcs, l'URSS, elle, pousse le pion Roménie dans le but de déstabiliser toute la région, s'alignant dans cette stratégie sur les Américains. Dès les années 60, des relations étroites sont entretenues entre communistes iraniens et religieux. L'extrême gauche iranienne sera la première à subir des persécutions sans que le Tudé bouge, mais bientôt, le Parti communiste se verra interdit en février 1983 après une vague d'exécutions frappant ses membres, accusés de livrer aux soviétiques des informations sur la guerre Iran-Irak. Ainsi que l'avait crié un religieux communiste qui manifestait en clamant « prolétariat », la gauche iranienne allait découvrir ce qui lui en coûtait de vivre en « molatariat ». La coalition improbable des communistes, des étudiants anticolonialistes et des héritiers spirituels de Mossadegh allait accoucher d'un pouvoir théocratique. Lorsque le Shah, malade d'un cancer du sang depuis 1974, fut renversé, ni les Britanniques ni les Américains ne souhaitèrent lui offrir asile. Son ami Giscard d'Estaing, qui affectionnait de skier en sa compagnie et qui avait offert un avion à Roménie pour son retour au pouvoir, ne se souvint soudain plus de cette ancienne amitié. Le Shah et sa famille partirent d'abord en Égypte en janvier 1979. Ce fut l'étonnement, car on s'attendait à ce que le souverain demandât asile aux États-Unis, dont il avait été un fervent soutien, et d'ailleurs, non seulement Roménie ne s'y était pas opposée, mais l'éditeur et ambassadeur multimilliardaire Walter Annenberg proposait de mettre à la disposition de la famille Pahlaoui sa somptueuse propriété de Sunnylands à Rancho Mirage, près de Palm Springs, propriété dans laquelle le Shah avait été invité, comme d'ailleurs d'autres têtes couronnées. L'empereur en fuite souhaitait se rendre en Amérique pour alerter Carter sur les dangers de l'avènement d'un régime islamique en Iran, mais le président américain lui demanda de se rendre d'abord à Assouan afin de s'entretenir avec le président Sadat sur les accords de Camp David fraîchement signés entre Israël et l'Égypte. C'est à bord du Shahin, le Boeing impérial, que vont prendre place le souverain en fuite, son épouse, deux gardes du corps, deux responsables de sa sécurité, son valet personnel, le chef cuisinier du palais, le docteur Lucie Pirnia et Amir Aslan Afshar, son chef de protocole. Le Shah crée la surprise en demandant à son pilote de faire office de copilote, tandis que lui, l'empereur, prend les commandes malgré son état physique déplorable. Il gardera les commandes tant que l'appareil sera dans l'espace iranien, de peur d'un détournement de l'avion, puis se reposera en cabine jusqu'à l'atterrissage à Assouan. Les entretiens avec Sadat étant achevés, le Shah manifeste alors le désir de se rendre aux États-Unis. Et là, surprise, il s'entend répondre que sa venue n'est plus souhaitée. Cela rappelle les trahisons britanniques qui, après avoir promis à Reza, le père du Shah, de le laisser s'installer en Inde, lui interdirent de descendre du bateau en rade de Bombay et le déportèrent à l'île Maurice. Après l'exil du père, la longue errance du fils commença, entrecoupée de multiples interventions. Il y eut le Maroc, où le Shah s'attarda, espérant un illusoire retour au pouvoir jusqu'au moment où Hassan II lui demanda de quitter le pays. Entre-temps, l'ambassade américaine à Téhéran avait été mise brièvement sous contrôle le 14 février et un site d'espionnage Taxman avait vu son personnel capturé. Le Shah manifesta alors l'envie de se réfugier aux États-Unis. Mais la donne avait entre-temps changé. Le climat était devenu détestable. Aux États-Unis, des manifestations pro-Roménie se multipliaient. La sécurité du Shah et de sa famille serait compliquée. Et il pourrait faire l'objet de procès comme n'importe quel citoyen. Pour toutes ces raisons, on fit comprendre au souverain déchu que sa présence en territoire états-unien n'était pas souhaitée. Et dépité, il fila aux Bahamas. Une fois là-bas, l'ex-souverain, devenu localement une sorte d'attraction touristique, fut rempli d'amertume et déclara publiquement qu'il devait sa chute à l'administration Carter. Du coup, un certain nombre de personnalités influentes pesèrent pour qu'on lui accordât asile aux États-Unis. Brzezinski, David Rockefeller, Henry Kissinger firent valoir que refuser la venue du Shah, non seulement c'était trahir un ami, mais aussi envoyer le message calamiteux aux alliés de Washington que l'oncle Sam était capable d'abandonner ses meilleurs soutiens. D'autres conseillers influents mettaient en garde en appelant la prudence vis-à-vis du régime iranien, ce qui était confirmé par une réponse de ce dernier qui acceptait que les enfants du Shah poursuivissent leur scolarité aux États-Unis, mais qui ajoutait qu'en revanche, y accueillir leur père était dangereux pour l'Amérique. Le Shah ayant à nouveau sollicité ses amis pour qu'on lui accordât asile, Carter refusa une nouvelle fois. Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, l'empereur déchu, le roi des rois renversé, trouvera-t-il asile ? Nous le découvrirons lors de notre prochaine rencontre.